à Rencontre spirituelle. Aujourd'hui, ce sera une émission entièrement consacrée à la vie d'Adrien von Speer. Mais c'est aussi la vie de la fête de Hildegard Bingen, cette grande mystique et médecin d'ailleurs, comme Adrien von Speer. Adrien von Speer était un médecin suisse, une grande amie de Hans-Urs von Balthasar. Et elle a eu une vie mystique absolument exceptionnelle qu'il faut vraiment raconter. Pour cette émission, je m'inspire d'une brève vie écrite par Elio Guerriero dans un ouvrage important consacré à Hans-Urs von Balthasar, publié chez Desclés. L'arrivée à Bâle, en Suisse, où Marcel Brisebois et moi, nous avions eu l'occasion d'interviewer Hans-Urs von Balthasar, qui est un des plus grands théologiens de ce siècle, bien, ça marque un tournant dans la vie même de Balthasar, et ça marque aussi un tournant dans la vie d'Adrien von Speer. C'est une rencontre qui compte vraiment, on pourrait dire, pour celui qui est considéré par certains là, comme le plus grand même des théologiens de cette fin de siècle. Il est décédé il y a à peine quelques années. Madame von Speer, qui était bien connue à Bâle en tant que médecin de réputation confirmée, était à peine remise d'un grave infarctus qui l'avait gravement menacée, et elle exprimait le désir de connaître ce jeune théologien qui fait déjà parler de lui à Bâle quand il arrive, car sa culture, ses initiatives aussi dans le cercle des étudiants ont fait beaucoup de bruit dans la ville de Bâle, toujours en Suisse évidemment. Et c'est le commencement d'une relation extraordinaire à laquelle Balthasar va demeurer fidèle toute sa vie. Et en 1984, 17 ans après la mort d'Adrien von Speer, eh bien, il va écrire, en guise de testament spirituel, un ouvrage en allemand, Unser Auftrag, ce qui veut dire notre tâche. Il y a une traduction française qui, sous le titre L'Institut Saint-Jean, Genèse et Principes, Culture et Vérité, chez Brepols, en 1984, justement, la même année. Et puis, au début de ce livre, on peut lire une déclaration solennelle. Il dit, « Le but essentiel de cet ouvrage est d'empêcher, après ma mort, toute tentative de séparer mon œuvre de celle d'Adrien von Speer. Il démontre que cela n'est pas possible, ni en ce qui concerne la théologie, ni pour la fondation de l'Institut. » Et alors donc, la vie d'Adrien von Speer est une vie très curieuse. Elle est née en 1902. Il y a donc 94 ans, de parents aisés, à La Chaux-de-Fonds, en Suisse française. La famille de sa mère avait fait fortune dans le commerce des montres, ce qui est assez typique en Suisse, n'est-ce pas? Et celle de son père était originaire de Bâle, donc en région allemande, ou alémanique, comme on dit, où les Speer, ça s'appelle S-P-E-Y-R, von Speer, von c'est V-O-N, von Speer. Alors, les Speer avaient, avant la réforme protestante au XVIe siècle, ils avaient été fondeurs de cloches et aussi des imprimeurs. Alors, selon une tradition encore présente dans la famille, bien, le père d'Adrien von Speer était un ophtalmologiste, lui. Il exerçait sa profession avec un dévouement qui lui a valu d'ailleurs le respect, la considération de cette petite ville du Jura où ils habitaient. Sa mère, qui s'appelait Laure Girard, s'était mariée très jeune. C'est une femme étrange. Elle a partagé le respect général porté à son mari au point de lui consacrer toute sa vie. En plus d'Adrienne, les von Speer avaient trois autres enfants. Hélène, l'aînée, était la préférée de sa mère. Willy, de 3 ans plus jeune qu'Adrienne, avait un caractère enjoué, mais une santé fragile lui aussi. Et enfin Théo, qui avait 11 ans de moins qu'Adrienne, et dont elle parle très peu. Dans une autobiographie qui lui a été demandée par Hans-Urs von Balthasar. La vie familiale était tranquille, sévère. Les enfants étaient confiés à une gouvernante. Ils sont astreints d'ailleurs à un horaire assez rigoureux. Ils voient leurs parents imaginer qu'au déjeuner et le soir. Donc le midi et le soir. Pour leur souhaiter bonne nuit. Ils n'ont en outre le droit de parler que si on les interroge. La naissance d'Adrienne en 1902 avait été, ainsi que la grossesse, très très douloureuse pour sa mère. Et peut-être qu'on peut voir là, dans cette circonstance un peu malheureuse, la cause d'une espèce de sourde rancune qui habitait sa mère et qui pousse cette femme, Laure von Speer, ou Laure Girard, à faire souvent, puis sans raison aucune, de vifs reproches à sa fille. Et celle-ci, Adrienne von Speer, a souffert toute sa vie de ce rejet, qui n'est disparu qu'à la fin des années 40. Dans son autobiographie, Adrienne raconte, à titre d'exemple, un épisode où elle a été heurtée par une voiture, le jour de l'an, c'était le jour de l'an. Et selon la tradition, bien, un déjeuner, si vous préférez un dîner, donné par l'arrière-grand-mère, réunissait la famille, puis Adrienne avait reçu en cadeau un manteau rouge pour cette occasion. Et après 1000 recommandations de sa mère, elle a mis ce beau manteau. Elle sort faire une course. Et soudain, tandis qu'elle traverse la rue, une voiture la renverse. Et l'accident aurait pu d'ailleurs avoir des conséquences fatales, mais un rassemblement se forme aussitôt. Adrienne refuse toute assistance, elle court à la maison, et au lieu de soins, c'est une sévère semonce qu'elle reçoit de sa mère. Car sa mère ne croit pas un seul mot de son récit. Elle lui reproche non seulement d'avoir abîmé son manteau, mais de mentir. Imaginez-le. Ce qui devait se passer dans l'âme de cet enfant, ça doit être épouvantable. Alors l'accident, c'est le grand sujet de conversation du déjeuner. Puis l'ingéniosité d'Adrienne a inventé des mensonges et commenté. Alors on rit d'elle. Mais lorsque la famille rentre chez elle, nombreux sont les journalistes et les amis qui téléphonent pour demander des nouvelles et qui confirment ainsi le récit d'Adrienne. Les journaux signalent même que la charmante petite von Speer a fait preuve d'un grand courage pendant l'accident. La seule réaction de la mère d'Adrienne, préoccupée de l'effet que peut avoir sur elle l'adjectif « charmant » publié dans le journal, est de lui interdire de lire l'article. Alors, ce qui irrite particulièrement la mère, ce sont les questions que lui pose sa fille sur la religion. Elle lui dit constamment, tu finiras par devenir catholique si tu continues. Et elle le lui dit avec un certain mépris. Mais c'est une prophétie qui semble toutefois à cette époque un événement irréalisable parce que la petite fille est alors enfermée dans tout ce normalisme bien pensant du protestantisme officiel en Suisse alémanique. J'ai une filleule convertue au catholicisme qui vient de ce milieu. Elle était la fille du président de Suisse, un ancien président, Monsieur Hafner, et elle a été éduquée à Berne. Et il y a un peu ça qui règne dans la famille quand j'ai rencontré certains membres de sa famille. C'est assez curieux, c'est spécial. Et elle, Adrienne von Speer, était dans l'impossibilité de se soustraire à cette espèce de climat. La seule personne qui donne à Adrienne l'impression d'être pleinement comprise, c'est sa grand-mère maternelle. C'est une femme d'une grande sagesse, qui sait répondre à toutes les questions de sa petite fille. Ma grand-mère, qui s'asseyait chaque jour près de la fenêtre, bien paraissait une personne qui ne cessait d'attendre quelque chose et qui était préparée dans son fort intérieur à ce qui lui arriverait. Elle était tellement prête que si l'on venait à elle avec quelques soucis, quelques problèmes de conscience ou certaines questions à poser, elle savait déjà ce qu'on aimerait entendre d'elle et aussi ce qu'elle devait dire pour réconforter et tranquilliser. Et Adrienne von Speer continue dans son autobiographie. En outre, ma grand-mère était une excellente conteuse et ses histoires étaient toujours telles qu'on avait le cœur léger après l'avoir écoutée. Elle semblait toujours savoir d'avance quelle histoire on lui demanderait, et elle racontait juste celle qui était propre à éveiller notre intérêt et pas une autre. Et elle parlait de sa jeunesse ou bien de la maison où elle racontait beaucoup d'histoires sur le bon Dieu. Et écoutez bien ce qu'elle dit, c'est très beau sur sa grand-mère. Et quand elle évoquait le bon Dieu, on était sûr qu'elle le connaissait très bien. Alors, on voit par ce texte d'Adrienne von Speer que quand elle était une fillette, quoi, elle était très attachée à sa grand-mère, qui a eu sur elle une influence durable. Et Adrienne avait 11 ans lorsqu'elle a perdu sa grand-mère en 1913. Et ça lui a causé un très grand chagrin. Et ça l'a fait un peu trop se refermer sur elle-même. Plus dramatique encore a été pour elle la disparition de son père, qui est mort 4 ans plus tard, au début de 1918. Au cours des ans, Adrienne est devenue l'amie et la confidente de son père, dont elle pressent la mort avec certitude. En outre, cet événement bien douloureux change tout à coup le train de vie des von Speer, et la famille doit abandonner le grand appartement de La Chaux-de-Fonds. La Chaux-de-Fonds, c'est C majuscule H-A-U-X, 2, puis Fonds, F-O-N-D-S, drôle de nom. Alors, ils abandonnent La Chaux-de-Fonds pour s'installer, toujours dans la même ville, dans un petit logis modeste, et finalement, ils se transportent à Bâle. Et entre-temps, se pose le problème de l'école. Adrienne, qui est passionnée de lecture et d'études, a toujours étonné ses professeurs par sa facilité à apprendre. Elle a insisté, au moment voulu, pour s'inscrire au lycée avec un but bien précis, étudier la médecine. Elle est alors entrée en conflit avec sa mère, catégoriquement opposée à une école où dominent les garçons. Elle a peur que sa fille aille là. Et seul l'appui de son père lui permet d'entrer au lycée, mais les objections de sa mère, qui est devenue veuve, redoublent, et finalement, Adrienne est obligée de suivre en même temps des cours pratiques en vue d'un simple emploi dans une banque, et elle doit en plus s'occuper du ménage. Alors la jeune fille, la jeune Adrienne, de 15 ans, se lève à 4 heures du matin, nettoie la maison, va à l'école, il y a d'autres tâches domestiques qui l'attendent à son retour. Et une de ses amies lui dit, on ne peut pas continuer comme ça. C'était sa cousine Madeleine, qui était choisie, par Dieu elle aussi. Et toutes les deux ont développé une amitié profonde et qui a sauvé Adrienne von Speer. Et elle, on verra dans quelques instants, comment elle va réussir à évoluer grâce à sa cousine et grâce à la rencontre, finalement, plus tard, de Hans-Urs von Balthasar. Nous en étions donc à la situation difficile qui est faite à Adrienne von Speer alors qu'elle est jeune et elle est aidée par sa petite cousine, qui est très orientée vers Dieu et vers les vraies choses. C'est pas qu'elle soit pieuse et cessons de penser de cette façon-là. C'est une fille qui se pose intelligemment des questions sérieuses. Et alors, l'excès de fatigue, l'incompréhension mène Adrienne au bord même du suicide. C'est assez surprenant, mais heureusement Madeleine est là. Et c'est sa grande disponibilité envers Dieu qui la préserve. Il me vient subitement une idée. Je pouvais m'ôter la vie, et mon malheur aurait alors pris fin. La seule chose que je ne parvenais pas à trouver, comment m'y prendre, chaque moyen me paraissait inexécutable. Et comme par pudeur, on ne pouvait se tuer dans une baignoire. Elle n'aimait pas se suicider nu. Alors, je sortis de l'eau précipitamment. Et je ne sais comment, elle est toute jeune, Je me trouvai à genoux par terre, tandis que j'offrais à Dieu de vivre pour lui la vie dont je ne voulais plus. C'est dans son autobiographie. Mais tout d'abord, il semble que ce sacrifice-là, qui est généreusement offert à Dieu, ne dure pas très longtemps. Et pendant l'été de 1918, la jeune Adrienne von Speer a des accès de fièvre fréquents et persistants, et des examens révèlent, sans l'ombre d'un doute, une tuberculose des deux poumons. Alors le médecin du sanatorium lui prédit tout simplement qu'elle ne verra même pas le printemps. Alors Adrienne est envoyée en cure à la montagne. Puis là, une lointaine parente, la doctoresse d'origine russe, Charlotte Olivier, prend soin d'elle à Lézine ou Lézin. Ces deux années passées entre des améliorations, des rechutes, ben c'est très riche pour elle en grâce. Et c'est curieux. Ça lui permet aussi de faire des rencontres intelligentes et intéressantes au sanatorium. Et alors, puis auprès de cette doctoresse. Adrienne ne cesse de penser à Dieu, de prier, et d'être une présence, puis un témoignage parmi les malades et les assistants. Elle fait des conférences et se lie d'amitié avec Jeanne et Pauline Lacroix. Ce sont des noms bien d'ici, ça. Et pourtant ce sont deux jeunes parisiennes qui sont confiantes puis calmes dans leur foi catholique. C'est un des premiers contacts qu'elle a avec la foi catholique. Et Adrienne entre un jour dans une église catholique, justement, et elle se dit aussitôt, « Je me sens ici chez moi dans cette église, comme d'autres dans leur demeure. » Mais la route vers la conversion va être encore longue, et sa santé, entre-temps, revient peu à peu. Le désir d'être médecin, puis aussi le désir de soigner vraiment des malades, ça sort pas du cœur d'Adrienne, ça. Ça l'habite, et elle décide pour cette raison de suivre des cours d'infirmière dans un hôpital dirigé par des diaconesses. Vous savez que des diaconesses, ce sont au fond, on pourrait dire, des religieuses protestantes. Il y a d'excellentes diaconesses, j'en ai déjà rencontré. Et c'est un double échec. D'abord, une fois encore, sa santé l'abandonne. Puis une fois encore, la jeune Adrienne ne se sent pas vraiment en harmonie avec la piété protestante, qui peut être pourtant très belle. Et en 1921, au mois d'août, Adrienne peut enfin rentrer à Bâle, dans sa famille. Et la situation de fortune de sa famille s'est améliorée, mais pas l'attitude de sa mère à son égard. Et Adrienne retourne au lycée de Bâle, où l'accueille là un homme important, le proviseur Heinrich Barth. C'est le frère de Karl Barth, le fameux théologien déjà célèbre, et qui aura une conversation très importante avec Hans-Urs von Balthasar, très marquante. Alors, Adrienne rattrape en 6 mois les 3 années perdues, si bien qu'elle réussit à passer son baccalauréat avec ses anciens camarades. Puis après l'examen, le conflit avec sa mère, qui veut la forcer à travailler dans une banque, ramène Adrienne au bord du suicide. Et même son oncle, le directeur de l'hôpital de la Val d'Or, qui l'avait hospitalisé aussi, conteste le choix de sa nièce. Il pense, lui, que la médecine est une profession beaucoup trop astreignante pour une santé aussi fragile. Il a pourtant pu observer le grand dévouement avec lequel Adrienne consacre son temps disponible aux malades du grand établissement du canton de Berne. Je vous rappelle, Berne, c'est la capitale, c'est dans la région alémanique. Et après de longues hésitations, vient le moment de se décider. Adrienne demande un secours financier à son oncle qui refuse. Alors, bien résolue à gagner sa vie, à payer ses études, mais la jeune fille se met à donner une foule de leçons particulières, et après avoir travaillé son piano passionnément au temps du lycée, là, elle y renonce désormais dans un esprit que je n'approuve pas toujours, moi, comme un sacrifice à Dieu pour ses futurs malades, dit-elle. Aujourd'hui, quand on parle de ça, dans les textes, on met sacrifice entre guillemets. Il faut bien comprendre que c'était à la base d'un amour pour Dieu profond. Mais c'est curieux. Et les années de médecine sont fécondes, bien que tourmentées. Et au début, au service des patients de l'hôpital, où elle est comme chez elle, vient la jeune étudiante trouve un sens à sa vie. Et c'est alors qu'elle découvre l'ascèse. en se consacrant entièrement à ses malades. Et elle écrit au sujet justement du mot ascèse. Elle dit « J'ignorais absolument à ce moment-là le mot ascèse. Mais à présent encore, si je veux me faire une idée de ce que doit être une véritable ascèse, je pense à une salle d'opération. Cette manière d'être finit par m'impressionner beaucoup. Je l'avais d'abord jugé au début comme une réaction normale face à un métier aussi sérieux. Et peut-être pensais-je aussi que le travail professionnel, aussi bien sur le plan manuel que dans la préparation et le choix des instruments, était intéressant au point d'inspirer par lui-même aux infirmières puis aux subordonnés un tel comportement. Mais, je m'aperçus avec le temps que cette abnégation était une forme d'amour vrai. Presque anonyme. Disponibilité extrême, vigilance, maîtrise de soi, tout était service de l'amour. Tout était service de l'amour. Alors ce Dieu, qui lui apparaît toujours différent, et qu'il ne lui a pas encore été vraiment donné de rencontrer, on voit commence à se manifester à elle, dans le dévouement au prochain. Elle écrit d'ailleurs, un autre point fort de la journée était la petite visite privée aux malades que je faisais le soir, en allant d'un lit à l'autre avant de rentrer chez moi. Oh, ce geste n'était plus du tout chirurgical, mais très humain. Et dans l'ensemble, on découvrait très vite le caractère des individus, le fond de leur âme, et l'occasion se ferait à nous, qui appartenions à l'hôpital, de nous attacher, d'éclairer et d'aider. Alors, en 1927, Adrienne von Speer reçoit d'une cousine une somme d'argent. Elle décide de l'employer à passer quelques jours à San Bernardino, qui est un petit village au pied de la montagne du même nom. Elle y rencontre plusieurs amis de Bâle, parce qu'il y a une section italienne en Suisse. Elle y rencontre plusieurs amis de Bâle, parmi lesquels Émile Dürr, D-U umlaut, ou tréma si vous préférez, R-R, qui est professeur d'histoire à l'université. Sa femme vient de mourir, elle lui a laissé deux enfants. Comme bien d'autres avant lui, mais le docteur Dürr s'éprend de cette étudiante qui est courageuse et qui, après s'y être opposée, finit par accepter de l'épouser, surtout par amour pour ses deux enfants. Et en 1928, bien Adrienne von Speer passe l'examen d'État et peut ainsi se donner complètement à l'exercice de la médecine. Elle est médecin. Hospitalière d'abord, puis privée ensuite. À partir de 1931, la famille Dürr habite à Bâle. Elle est devenue Madame Dürr. On l'appelle toujours Adrienne von Speer. Alors, la famille Dürr habite à Bâle, une belle maison, sur la Münsterplast, où Émile et Adrienne mènent une vie tranquille, en apprenant à mieux se connaître et à s'aimer. Bon, ils s'entretiennent souvent de Dieu. Ils voyagent. Ils visitent ensemble les églises d'Italie. Ils sont heureux. Mais en 1934, à la suite d'une blessure grave causée par une chute, son mari meurt et Adrienne a pressenti son malheur comme lorsqu'elle a perdu son père. Elle a grand mal à se remettre. Et une nouvelle dépression suicidaire s'empare d'elle et seule l'amitié solide et attentive d'un médecin catholique, le professeur Merck, a pu la sauver. Son chagrin a eu des conséquences plus graves et plus durables encore pour sa vie spirituelle. À la mort de son mari, Adrienne von Speer, dont il est question aujourd'hui, docteur Adrienne von Speer, eh bien, elle a prononcé ce qu'on appelle le fiat à la volonté divine. Elle dit à Dieu que ta volonté soit faite. Mais par la suite, il lui a semblé que cet acquiescement, cette approbation de ce que Dieu a fait, lui a été presque arrachée. Ça lui a pas été accordé en toute liberté. Alors, elle croit qu'elle ne peut plus jamais dire que ta volonté soit faite en récitant l'oraison dominicale. Alors, elle en a parlé à un pasteur protestant, parce qu'elle est protestante, qui lui a, chose étrange, imprudemment suggéré de réciter d'autres prières. Mais c'est pas ce qu'il fallait faire, évidemment. Ça se révèle bien vite inefficace, car sans un tel consentement à la volonté de Dieu, mais toute prière n'est qu'une espèce de petit murmure. Pourquoi prier alors? Alors deux années pleines d'incertitudes s'écoulent, après lesquelles Adrienne von Speer qui est soucieuse de donner un père aux deux enfants qui lui sont confiés de son premier mariage, bien, elle épouse en seconde noce, en 1936, Werner Keiji, qui est l'assistant de Dürr, son époux décédé, et qui a été aussi son successeur à la chaire d'histoire. Alors, pendant l'automne de 1940, Adrienne est frappée par un dangereux infarctus. Et à son retour à l'hôpital, elle exprime le désir de rencontrer le nouvel aumônier des étudiants, un ami commun. Et quelqu'un se charge de lui présenter Balthazar. C'est lui, Balthazar, qui surgit dans sa vie et qui vient d'être transféré de Munich à Bâle au début de l'année. Sur la terrasse au bord du Rhin, c'est très joli, Bâle, c'est une belle ville au bord du Rhin. Balthazar entretient Adrienne von Speer de Peggy. Étrange, ils sont de langue allemande. Il entretient Adrienne de Charles Peggy, dont je vous ai parlé au début du mois. Il y a une émission spéciale sur lui. Il lui parle aussi de Paul Claudel. Je suis en train d'en préparer une sur Paul Claudel. Ce sont les deux poètes que Hans Urs von Balthasar a traduits en allemand à cette époque. Puis, il faut vous dire que Balthasar a énormément écrit, énormément traduit d'ouvrages français en allemand. C'est extraordinaire. Une œuvre phénoménale. Vous savez qu'il est mort, Balthasar, la veille ou l'avant-veille, je crois, où il devait recevoir la barrette ou le chapeau, si vous préférez, de cardinal. Il avait été nommé cardinal. Alors là, la conversation entre eux, Balthasar et Adrienne, devient plus personnelle et Adrienne lui expose sa difficulté à dire que ta volonté soit faite. Et Balthasar, comme il est dit dans Unser Auftrag, dont je vous ai parlé tout à l'heure, ce livre de Balthasar, il lui rendit le pater, c'est beau. Rendre le pater de notre Père, quoi. En expliquant que par cette invocation, que ta volonté soit faite, nous n'offrons pas à Dieu notre concours, mais notre disponibilité afin que lui puisse s'emparer et disposer de nous à son gré. Je vous ai souvent dit que une des prières que je préfère crier du fond de mon cœur quand je suis dans un état de quasi-désespoir devant des événements, c'est « Esprit Saint, prends-moi, prends-moi !» Et c'est la même chose. Ça revient au même. Et selon l'expression de Balthasar, ses conseils ont été comme s'il avait, il écrit, « tourné un interrupteur et allumé d'un coup toutes les lumières de la salle ». Alors l'âme d'Adrienne est illuminée. Ah, Adrienne est vite libérée de toute perplexité. Elle peut prier de nouveau avec ferveur et à la suite de quoi, elle décide d'adhérer au catholicisme. Elle ne rencontre aucun problème à en accepter les principales vérités, en particulier la présence réelle dans l'Eucharistie. Ceux qui m'écoutent tous les jours savent que le 6 septembre, j'ai consacré toute une émission à la présence réelle dans l'Eucharistie. Cette émission a eu un succès énorme, et je la dois en grande partie à l'abbé Pierre Découvement, dont je me suis inspiré. Elle accepte aussi la confession individuelle. Elle a écrit d'ailleurs un ouvrage magnifique sur la confession. Un jour, on viendra sur cette question. Et à la fête de la Toussaint de 1940, elle est baptisée. Sub conditione, comme on dit en latin, c'est sous condition, quoi, parce que son baptême était valable. Je sais pas pourquoi on l'a baptisée à nouveau. Elle était baptisée protestante. C'est un baptême excellent. Et quelques mois plus tard, eh bien, déferle sur elle une véritable vague, dit-on, de grâce mystique qui la secoue à la fois de toutes parts, comme une tempête désordonnée en apparence seulement. Alors, elle a des grâces de prière qui l'arrachent à la prière vocale pour l'enrichir après un certain temps de nouvelles connaissances et de nouvel amour et de nouveaux projets. Ce sont des grâces de vision aussi, car, chose étrange, cette femme extrêmement intelligente et sérieuse a des visions. Elle a une apparition encore voilée de la mère de Dieu. Une communion croissante s'établit entre elle et la Sainte Vierge et de nombreux saints. En particulier Saint Ignace de Loyola, fondateur des Jésuites. Et tout ça atteint un point même de familiarité assez stupéfiant. Peut-on y croire? Ça n'enlève rien de toute façon à la valeur des ouvrages de cette femme. Il y a ensuite les charismes de guérison, et il y a même la stigmatisation. Et chaque année, pendant la Passion, la participation aux souffrances physiques du Christ, mais encore plus à sa souffrance morale. Car si on s'attarde souvent en contemplant le Saint-Suaire de Turin dans toute sa grandeur, et quand on lit aussi les récits de la Passion, si on s'attache aux souffrances physiques du Christ, sachons bien que ces souffrances morales étaient des milliers de fois plus grandes, car c'était l'amour qui était blessé, qui était tué. L'amour avec un grand A. Et à travers toutes ces expériences, bien Adrienne von Speer élabore sa propre idée de la mystique. Elle écrit « La mystique est une mission particulière auprès de l'Église, dont on ne peut s'acquitter correctement que dans le perpétuel détachement de soi, dans l'oubli de soi. » Elle aimait d'ailleurs le mot « effacement ». Et elle ajoute « Ça ne peut se faire, on ne peut s'acquitter correctement donc de tout ça, que dans l'humble disponibilité envers la parole de Dieu. » Voyez-vous, elle a compris la disponibilité. Alors, les phénomènes mystiques réclament évidemment l'assistance de Balthazar, qui ne doute, lui, à aucun moment de leur authenticité. Et bien au contraire, il se persuade peu à peu qu'Adrienne von Speer et lui ont une mission au sein de l'Église, au service de laquelle il doit se mettre, même au risque de sacrifier ce qui lui est le plus cher dans sa vie, c'est-à-dire l'appartenance à la Compagnie de Jésus. Je donnerai le 10 novembre, un dimanche après-midi, au Centre Unitas, une conférence, et je présenterai deux entrevues uniques avec Hans-Urs von Balthasar. Ce sont les seules qu'il ait données dans sa vie, entrevue télévisée. Donc, le 10 novembre, je les présenterai, et il parle justement, en pleurant un peu, du moment où il a dû quitter la Compagnie de Jésus pour fonder cette organisation-là. Leur collaboration à Adrienne von Speer et lui consiste surtout dans deux initiatives, donc la fondation de la communauté de Saint-Jean, qui est un institut séculier sous l'angle du droit ecclésiastique. C'est une communauté composée au départ uniquement de jeunes filles, mais avec le temps, il y aura des hommes et des prêtres, qui suivent les préceptes évangéliques, mais tout en exerçant leur profession dans le monde. La seconde initiative réside dans la dictée, c'est très important ça aussi, la dictée et la rédaction des dictées, une expérience qui se poursuit pendant des années. 60 volumes environ, je crois. C'est immense. Et chaque jour, en revenant à son cabinet médical, eh bien, la doctoresse, ou si vous préférez, le docteur von Speer, boit une tasse de thé puis commence à dicter. Ce qui dure rarement plus d'une demi-heure. Elle s'assoit toujours dans le même fauteuil, que l'on peut voir d'ailleurs dans l'émission que j'ai réalisée à Bâle, chez Hans-Urs von Balthasar, bien longtemps. Et Balthasar a le devoir, lui, de sténographier. Il a appris la sténographie. Il sténographie les dictées d'Adrienne. Et selon le désir formel d'Adrienne von Speer, il est transcrit ensuite dans une langue précise au point de vue ecclésial. Elle se fie à ses connaissances théologiques. En un même temps, les dictées posent quelques difficultés. On écrit que le commentaire du prologue de Saint-Jean est à plusieurs reprises passé au crible, corrigé et réécrit. Le prologue de Saint-Jean, vous vous souvenez, les catholiques, on lisait ça à la fin de la messe, on appelait ça le dernier évangile. C'est tout simplement le tout début de l'évangile où la divinité du Christ est affirmée. Dans ce texte de Saint-Jean, au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu, et le Verbe était Dieu. Mais ces textes deviennent bientôt si fluides qu'il n'y ait plus besoin d'aucune correction finalement. Et dans cette dictée, Adrienne traduit ce qu'elle voit. Une sorte de forme imprimée, c'est curieux, qui peut se dissoudre, mais qui de toute façon est présente au moment de la dictée. Et à cet instant, dit-elle, Tout est là, de nouveau, aussi frais que précédemment, même à des mois d'intervalle. Alors, c'est comme ça que prennent corps les ouvrages principaux d'Adrienne von Speer, et pendant ce temps s'écoule la vie de tous les jours, bien immuable et riche, en toutes sortes de devoirs, comme médecin. Tant que ses forces ne lui manquent pas, mais Adrienne fait souvent des conférences aux jeunes filles de l'Institut Saint-Jean. Elle continue aussi, évidemment, ses consultations. Puis elle poursuit ses dictées chez Balthazar, dans la maison où je suis allé, là, avec Marcel Brisebois. Et à partir de 1950, elle éprouve une série de morts mystiques. Et à partir de 1955, elle est si faible qu'aucun médecin n'est en mesure d'expliquer comment elle peut vivre encore. Et à plusieurs reprises, elle paraît avoir atteint le point minimal de survie, et chaque fois, elle se ressaisit. Balthazar écrit « Son corps était un orgue sur lequel tous les registres de la souffrance étaient tirés, registres nouveaux et imprévus. » Et en 1964, elle perd la vue. La lecture lui est désormais interdite, c'est pour elle une grande souffrance. Mais elle accepte profondément. Et le tricot reste sa seule activité matérielle. Et finalement, eh bien, elle meurt le 17 septembre 1967, en la fête de Sainte-Hildegarde de Bingen, pour laquelle elle a une dévotion particulière en raison de leur amour commun de la médecine. Et sur sa tombe est sculpté le symbole de la Sainte Trinité, centre intime de sa théologie. Et nous allons maintenant parler des œuvres extraordinaires, admirables, d'Adrienne von Speer. Adrienne von Speer a relativement peu écrit de sa propre main. Son ouvrage le plus caractéristique, bien qu'inachevé, c'est son autobiographie. Extrait de ma vie, écrite sur l'ordre de son père spirituel Balthazar. C'est un style plaisant, un peu prolixe, là. Elle raconte les premières années de sa vie, puis elle décrit l'ambiance familiale, la piété libéralo-protestante, chez ses parents, tout à fait privée. Adrienne s'efforce d'exposer aussi en toute objectivité les conflits avec sa mère, son élan aussi envers la conception catholique du christianisme. Et le livre nous mène jusqu'en 1926, au moment où Adrienne, à 24 ans, fait ses premières expériences de stagiaire là, dans les hôpitaux de Bâle. Il existe aussi un ensemble de lettres sur la vie chrétienne. Adrienne insiste dans ses lettres sur la nécessité, c'est très important ça, de prendre une décision qui engage toute la vie, de mettre en balance l'existence entière, puis d'opter soit pour le mariage indissoluble, soit pour la vie religieuse. Les deux réclamant, selon elle, un engagement définitif. Il peut évidemment exister, du point de vue sociologique, là, l'état de célibat, mais certainement pas du point de vue théologique. Hein. Un oui marial et ecclésial, d'après elle, ne peut être prononcé sous condition, ou selon le temps, comme on dit sub conditione, ad tempus, pour un certain temps, dans l'attente de temps meilleur. Non, non. Pour elle, il faut prendre une décision définitive. Hein. Par ailleurs, Adrienne rassemble une série d'aphorismes concernant tout particulièrement la vie religieuse. De même qu'elle rédige aussi de nombreux préceptes pour la règle de la communauté de Saint-Jean. Et la partie la plus intéressante de l'ouvrage, c'est une introduction. On souligne que le but principal de l'institution Saint-Jean et de faire prendre conscience que Dieu mérite plus d'amour que le monde ne lui en donne. Hans-Urs von Balthasar explique d'ailleurs, lui, de son côté, le sens des conseils évangéliques, l'esprit de pénitence et de joie. Je vous l'ai déjà mentionné, la plus grande partie des œuvres d'Adrienne von Speer a été dictée à Balthasar. Le théologien les a sténographiés, les a mis en ordre, les a publiés, plusieurs années après la mort d'Adrienne, avec une fidélité extraordinaire. Et selon un classement fait par lui-même, bien, toute cette espèce d'ensemble d'œuvres immenses peut être divisée de la manière suivante. Alors, il y a des commentaires bibliques, et puis il y a des livres sur la prière et les sacrements. Il y a des livres Mario, sur la Sainte Vierge, des livres sur l'état religieux, puis des livres posthumes. C'est énorme. Les dictées d'Adrienne pour les commentaires bibliques sont devenues très vite des ouvrages extrêmement importants. J'en ai un ici en particulier sur l'évangile de Saint Jean, la naissance de l'Église, justement, il y a question du prologue. C'est un livre assez immense, hein, c'est à 300 pages, toujours publié chez Le Tielleux. Et alors, elle a donc laissé de nombreux exposés spirituels, existentiels et méditatifs, aussi bien sur l'Ancien Testament que sur le Nouveau. Parmi les premiers, là, sur l'Ancien Testament, se trouve un commentaire du premier chapitre de la Genèse, d'autres sur le prophète Élie, d'autres sur le livre de Job. Il y en a sur le Cantique des Cantiques, sur quelques psaumes, quelques chapitres d'Isaïe qu'elle aimait beaucoup. Les textes du Nouveau Testament sont plus nombreux et plus importants. Tout d'abord, il y a le commentaire sur l'Évangile de Saint Marc, qui n'a pas été dicté à Balthazar, mais expliqué verset par verset à la petite communauté. Des approfondissements sur des passages particulièrement marquants, des synoptiques aussi, des trois évangiles de Luc, Marc et Matthieu. Alors, il y a le discours sur la montagne, la passion selon Saint Matthieu, la passion vécue de l'intérieur, les paraboles, les trois femmes et le Seigneur, ou trois femmes et le Seigneur. Et puis, il y a le grand commentaire de l'Évangile de Saint Jean dont je viens de vous parler, puis le commentaire de l'Apocalypse. Il y a celui de quelques épîtres de Saint Paul, la première aux Corinthiens, celle aux Éphésiens, celle aux Philippiens, aux Colossiens, le commentaire des épîtres catholiques. Alors, quand même, l'ouvrage le plus important d'Adrienne von Speer est le commentaire de l'Évangile de Saint Jean. C'est en quatre volumes, hein? Et dans le verbe « s'est fait chair », elle écrit « Pour Jean, le Seigneur est en même temps ami et Dieu, par lequel il reconnaît dans l'ami le divin, et dans le divin ce qui lui est ami. » En d'autres termes, Adrienne von Speer accorde à Jean cet état très proche du cœur de Jésus qui permet à l'apôtre, évangéliste, auteur de l'Apocalypse, et des lettres joanniques, là, de révéler au monde de Dieu comme personne d'autre ne l'a fait. De révéler ce monde de Dieu, le monde de Dieu, là, comme personne d'autre ne l'a fait. Hein. Par conséquent, l'exposé contemplatif de l'Évangile de Saint Jean est pour elle le chemin le plus sûr qui permette aux chrétiens de pénétrer dans les mystères de Dieu. Et puis, on peut dire que l'obéissance est révélatrice de la vie trinitaire. Hein? Elle revient souvent là-dessus. En tant que révélatrice de l'amour qui amène le Père à se donner entièrement au Fils, en une première kénose, ou si vous voulez, une vacuité de lui-même, à laquelle correspond l'acceptation reconnaissante du Fils qui se sait entièrement débiteur du Père. Dans un très beau texte, toujours dans le Verbe s'est fait chair, elle dit « Le Père est celui qui possède tout l'amour et le donne au Fils. Et le Fils est celui qui reçoit tout l'amour et veut le prodiguer parce qu'il l'a reçu à provision. » C'est de toute beauté. C'est cet amour qui porte le Fils à la seconde kénose qui consiste à s'incarner, à affronter la croix afin de ramener au Père son univers et sa créature. Le mystère trinitaire, c'est le centre des visions et des analyses d'Adrienne von Speer. Chacune de ses réflexions, de ses explications part de ce mystère et y retourne sans cesse. C'est ce fond d'amour plus présent à elle, plus indispensable, plus agissant que jamais, qui la bouleverse. Le non, quand l'homme dit non à Dieu, le non de l'homme à Dieu, ne pouvait être le dernier mot, vainqueur et sans appel. Alors le Fils, soutenu par le Père et l'Esprit, traverse cet océan de refus hostile, l'enfer, pour apporter son oui, que la croix dresse au-delà du nom de l'homme. Et si l'amour caractérise la vie trinitaire, il doit nécessairement caractériser la vie chrétienne, l'ascèse, la souffrance, la prière, le partage, la communion, prennent leur source dans ce comportement chrétien unique qu'est l'amour. Elle écrit dans un autre ouvrage, « Et quand nous nous offrons à Dieu, pour prendre notre humble part du fardeau du monde, cela doit se faire dans la joie et l'amour, dans la gratitude et la communion des saints. Elle a écrit sur la prière, le monde de la prière. C'est une des œuvres les plus importantes dictées par Adrien von Speer. Commence par un chapitre audacieux sur la prière à l'intérieur de la Trinité. Chacune des personnes de la Trinité voit Dieu dans l'autre. Dieu grand au-delà de toute compréhension et digne d'adoration. Et le colloque trinitaire prend alors forme de prière, d'adoration, de remerciement, de supplication. Et face à Dieu, la créature ne peut pas ne pas se conformer à ses différents comportements. Saisie et dominée qu'elle est par son Dieu toujours plus grand. Dans l'expérience de la prière, en revanche, tout ça a un caractère plus personnel. Et c'est très beau, Adrien y expose en quelque sorte sa propre manière d'être dans la prière, qui nous fait entrevoir que la frontière avec l'au-delà n'est pas loin de nous, mais au contraire présente en nous. Il s'agit de se laisser prendre par Dieu, de se laisser habiter par lui, en accordant sa parole la suprématie absolue sur notre propre vie. Dans la Confession, ce très beau livre, c'est l'un des ouvrages les plus audacieux et originaux d'Adrienne. Sa pensée centrale est christologique. Puisque le Christ, dans sa passion, se charge des péchés du monde, il les assume devant son Père, il les porte vers la lumière afin qu'il reçoive la grande absolution pascale. Et le pécheur, de son côté, doit mettre au grand jour devant l'Église ses péchés qui ne sont jamais tout à fait indépendants de ceux du monde, pour être en mesure de recevoir personnellement l'absolution de Pâques. Il y a un livre sur la Sainte Vierge, la servante du Seigneur. Il y a quantité d'autres ouvrages admirables que l'on retrouve aux éditions du Sycomore. Il y a le livre de tous les saints, La Croix et Enfer en 2 volumes, puis La Dramatique Divine, un journal en 3 volumes, etc., etc. Je vous laisse prendre connaissance avec tous ces ouvrages admirables d'Adrienne von Speer, je répète son nom, V-O-N, S majuscule P-E-Y-R. Donc, aux éditions Le Tielleux.